Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Inspecteur Derrick, inspecteur Barnaby, commissaire Moulin ou Montalbano, sans oublier Colombo.
Et vous, quel est votre vrai nom ?
Lieutenant Colombo.
Non, votre prénom.
Lieutenant.
Les flics, stars des séries télé depuis des décennies, seraient-ils en train de se faire voler la vedette par les crimes eux-mêmes ? Je suis Pierrick Fay, vous n'écoutez pas L'Heure du Crime, mais La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. La semaine dernière, je vous avais parlé dans La Story des startups qui surfent sur le succès des séries policières. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'engouement des Français pour les actes des criminels.
Une affaire qui commence un peu comme un suicide, avec des éléments d'un vaudeville un peu glauque, pour laisser la place à un scénario machiavélique.
Le cocu supplicié, c'est le titre de cet épisode de Crime Story, podcast de mes confrères du Parisien. Et il n'est pas le seul à traiter de ces affaires criminelles. Tapez crime sur votre fil de recherche dans les applis de podcast et vous serez étonné par le nombre d'occurrences. C'est presque aussi répandu que les podcasts de développement personnel. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les deux, enfin j'espère. Quoique j'adore la série des meurtres qui font du bien de Carsten Duss, polar que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de chroniquer sur les Échos Weekends. Des podcasts de crime, des polars qui se vendent comme des petits pains, des séries télé à succès, le crime fait vendre, mais pourquoi ? C'est la question que j'ai posée à Emmanuelle Delanoë-Brun, elle est maîtresse de conférences à l'Université Paris-Cité.
Ah, c'est une vieille histoire, le crime comme bel objet d'intérêt public. C'est une histoire qui remonte au 19e siècle, qui remonte à l'émergence de la modernité, à l'urbanisation de nos sociétés, qui rentre dans ce qu'on appelle la révolution industrielle. Donc vous avez un gros apport de population dans les villes. Et avec cet apport de population, va se développer une presse. Et une presse qui n'est pas nécessairement au départ une presse écrite, mais qui est beaucoup une presse illustrée. Je vous parle par exemple en Angleterre de quelque chose qu'on appelle les broadsheets, qui sont des espèces de grandes affiches et qui vont beaucoup prendre pour sujet des éléments criminels. Voilà, des histoires de gens qui se font attaquer, qui se font trucider, de choses absolument sanglantes. Et ça va générer un intérêt pour les choses criminelles. Ça devient des espèces de lieux publics qu'on va visiter. Donc c'est une vieille histoire qui est liée justement à cette nouvelle économie de la ville, où la chose criminelle, le fait divers, devient un élément d'intérêt pour des populations extrêmement diverses. Quand on travaille sur ce sujet-là, on voit que de ces affichages comme ça, d'affaires criminelles, puis de procès, on suit la reconstitution du meurtre, on suit l'arrestation du criminel, on suit son procès, on va suivre son exécution, qui sont des grands moments publics. Ce sont des éléments qui, assez rapidement, vont transiter vers la presse, vers la chanson, vers le théâtre, vers le récit. Et puis, la presse se développant, vous allez avoir énormément de publications spécialisées qui vont travailler à fictionnaliser ces histoires en feuilleton. Donc, va se développer une industrie du feuilleton de l'affaire criminelle. Et petit à petit, ça va passer ensuite au cinéma par des petits films d'une dizaine de minutes, puis à la radio. Et puis, à la télévision, les séries télévisées, sachant que le roman policier également fait l'objet d'un vif intérêt. Donc, je crois que c'est un phénomène qui est lié à la modernité, aux faits divers, à l'intérêt que toutes ces histoires permettent de développer sur, en fait, les complications de notre humanité, alors qu'on a l'impression que la société est en train de devenir quelque chose de très organisé. Tout d'un coup, ces éléments-là qui rappellent le désordre de nos passions, eh bien, intéresse énormément les lecteurs, les spectateurs.
Et dans votre livre « Passion criminelle » chez Erol, vous expliquez aussi que le genre n'est pas forcément anxiogène, contrairement à ce qu'on pourrait penser, car en général, eh bien, le criminel, à la fin, il est arrêté, l'ordre est rétabli, le bien l'emporte sur le mal.
Alors c'est l'idée, effectivement, de la série policière, de faire la démonstration de l'efficacité sociale. On montre à la fois que la société moderne, l'individu, sont des lieux dangereux, mais ce qu'on va montrer, faire émerger, et de façon répétée, c'est ça aussi qui est très important, c'est-à-dire que à chaque nouvelle affaire, vous allez avoir une résolution. Il y a une espèce de mécanique parfaitement huilée de la résolution qui fait que, en général, quand vous lisez des romans policiers ou quand vous regardez des séries policières, à la fin, il y a toujours un coupable derrière les verrous. Donc, si vous voulez, cette espèce de spectacle de la société qui est remise en ordre de fonctionnement et de l'élément intrusif qui est écarté, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant. D'où, certainement aussi, le succès que remportent ces formes.
Mais c'est pour ça aussi que, justement, certaines affaires fascinent, celles qui n'ont finalement jamais été résolues. L'affaire Grégory, l'affaire Lupin de Ligonnès.
Ah, tout à fait. En plus, ce sont des affaires dont on a vu se construire les développements. Et ce sont des affaires qui nous précipitent chacun dans le rôle de l'enquêteur possible, puisqu'on va lire tous les entrefilets qui passent dans la presse. On va s'interroger sur la personnalité des différents acteurs. On va suivre les actualités autour de ces affaires. Effectivement, les grandes affaires résolus sont également des espèces de démons à attention pour les spectateurs. En France, en Angleterre, aux États-Unis, il y a de grandes affaires comme ça qui attirent de façon très régulière l'attention. Et on a fait quelques films, je pense au film Zodiac, par exemple, sur une histoire célébrissime aux États-Unis d'un tueur dont l'identité n'a jamais été connue.
Je n'ai pas voulu vous faire peur. Je peux vous emmener à la station-service ?
Ça vous arrive souvent d'aider des gens en pleine nuit ?
Quand j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide.
On passe de plus en plus, hein, d'ailleurs, de la fiction à la réalité. Hein. Il y avait effectivement ces polars, ces séries télévisées qui avaient beaucoup de succès. Aujourd'hui, il y a les podcasts, les documentaires télé et radio sur les criminels, les tueurs en série, les cold cases. Les ressorts sont-ils les mêmes lorsque l'on passe de la fiction à la réalité ?
Alors, il y a énormément de porosité, en fait, entre la fiction et la réalité, depuis le début. Je vous disais tout à l'heure, en fait, les séries policières, le théâtre au 19e siècle qui reprenait des grandes affaires criminelles, s'inspiraient de faits réels. Donc, l'inscription dans les faits réels, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans un grand nombre de séries policières. On va reprendre et fictionnaliser des affaires qui sont connues. Je pense à une série qui est très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Law and Order et qui s'appelle New York Unité Spéciale en français, et dans laquelle, à chaque fois que vous avez une affaire un peu qui attire l'attention de la presse...
L'affaire DSK, notamment, à l'époque.
L'affaire DSK, tout à fait, exactement. Eh bien, vous allez avoir, dans les semaines qui suivent, un épisode qui va reprendre les faits de façon extrêmement reconnaissable. Du coup, vous avez une continuité entre le fait divers et puis la fiction policière. Mais il est vrai qu'il est intéressant de voir à quel point, depuis quelques années, l'intérêt pour ce qu'on appelle le « true crime », c'est-à-dire les faits divers tirés de l'actualité récente, c'est un phénomène qui prend énormément d'ampleur, à la fois à la radio, ou sur les réseaux par le biais des podcasts, ou sur les plateformes, je pense à Netflix ou à Amazon, qui développent des espèces d'enquêtes sur des histoires de crimes. Alors, est-ce que c'est les mêmes ressorts ? Je pense qu'il y a un certain nombre de ressorts communs, mais le fait d'avoir une prise directe avec le fait divers est une plus-value qui explique l'intérêt de ces séries. Et puis, un autre élément qui est intéressant, c'est qu'elles vont servir aussi à expliquer un peu le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions. C'est par ces faits divers, souvent, qu'on va s'intéresser au fonctionnement de la justice, par exemple. Sur quelle base on arrête les gens, comment ça se passe. Donc ça, c'est un élément qui est peut-être un petit peu plus développé dans ces séries.
Bon, ça va être un peu l'instant confession. Ma femme écoute beaucoup de ces podcasts. Elle s'endort en général avec, à tel point que je me demande le lendemain matin si je suis encore là. C'est un genre qui intéresse justement, c'est là où je vais en venir, beaucoup les femmes, c'est ce que j'ai lu. Pourquoi sont-vous ?
Alors écoutez, je ne sais pas, mais c'est vrai que beaucoup d'études ont montré cette corrélation entre un public féminin et les séries policières. Dans le true crime, beaucoup des auteurs de true crime sont en fait des autrices. Donc les femmes se sont beaucoup intéressées, à la fois comme créatrices et comme spectatrices, à ces formes. Alors je crois qu'il y a une des explications qu'on peut avoir à ce phénomène, c'est que les femmes sont socialisées à s'intéresser à la violence. Pour des raisons qui sont des raisons de sécurité personnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme, eh bien, on vous dit assez rapidement, quand vous êtes une petite fille, de faire attention à ne pas répondre à des messieurs qui vous abordent dans la rue. On vous prévient d'être particulièrement attentive à votre sécurité. Et je pense que, en un sens, les récits policiers ont une fonction de catharsis pour les femmes. C'est-à-dire que ça vous permet d'aller regarder régulièrement des choses qui vous inquiètent. Et puis, pour en revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure, de voir aussi que ces choses qui vous inquiètent, eh bien finalement, vont conduire à l'arrestation régulière des malveillants qui sont mis en scène dans ces séries. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un taux de résolution absolument extraordinaire dans les séries policières. Ce n'est pas du tout le même taux de résolution que vous avez dans la réalité. Donc, en fait, les fictions là-dessus sont beaucoup plus rassurantes que la réalité.
Et souvent, le criminel est un homme et la victime est une femme. Hein.
C'est extrêmement fréquent, effectivement, que le criminel soit un homme et la victime une femme.
Qui sont ces femmes? Qu'est-ce qui a pu les amener à tuer?
Je ne voulais plus vivre séparée de mes filles.
Elle a craqué.
Découvrez ces histoires vraies de femmes accusées de meurtre au travers d'enquêtes criminelles fascinantes.
Vous avez des figures de femmes criminelles. C'est aussi un haut lieu où on va développer la figure de la femme criminelle, de la mère criminelle. Donc on voit revenir tout un tas de fantasmes en fait culturels, classiques, la sorcière, la marâtre et les figures de la perversion féminine, qui sont aussi des déformations assez importantes et assez terrifiantes de vieux mythes et qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Donc vous avez un petit peu les deux pôles, la femme victime ou la femme criminelle perverse. Il y a un certain nombre de figures, je pense en particulier à une série qui s'appelle Luther, qui est une série britannique, dans laquelle le personnage du criminel est en fait une femme. Alors, c'est absolument pas réaliste, parce que des femmes criminelles en série perverses ne courent pas les prisons. Mais c'est comme si vous aviez besoin de ces espèces de deux pôles qui rendent les personnages féminins à la fois intéressants et anormaux. La victime, qui est souvent glamourisée, érotisée de tout un tas de façons, et puis la criminelle perverse. Mais sinon, c'est vrai, l'équation quand même la plus fréquente, c'est la victime féminine et puis l'enquêteur masculin.
C'est aussi un élément qui explique sans doute le succès de toutes ces enquêtes criminelles, que ce soit au cinéma, à la radio, dans les livres, d'Eric, Hieronymus Bosch, en passant par Pendergast, le commissaire Moulin, ou encore San Antonio ou Julie Lescaut à la télévision, ou comme dans les livres. Il y en a vraiment pour tous les goûts, en fait.
Tout à fait. Et c'est vrai depuis le départ, en fait. Si vous pensez à Conan Doyle, et puis à Agatha Christie, à Chandler, à Hammett, à Jim Thompson, vous avez en fait un panorama extrêmement large des auteurs et des autrices de ce type de série qui produisent du coup une galerie de personnages extrêmement variés. Vous avez des fictions extrêmement confortables qui se passent dans des petites bourgades françaises ou des petites bourgades anglaises. Vous avez des fictions qui vont au contraire choisir l'univers très réaliste noir de la ville contemporaine. Donc en fait, on trouve à peu près pour tous les goûts. Vous allez avoir aussi des séries, par exemple, à personnages d'enquêtrices féminines dont on se dit qu'elles sont construites plutôt pour des spectatrices. Et puis des séries, au contraire, extrêmement masculines qui vont développer une image de la virilité exacerbée, je pense à quelque chose comme The Shield. Donc, il y a un éventail extrêmement varié des personnages, du personnel de la série policière ou de la fiction policière.
Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur?
Je suis Jessica Fletcher.
Arabesque dans les années 80, très loin de l'univers de The Shield, mais ces séries ne permettent-elles pas aussi d'interroger nos sociétés de réfléchir à la façon dont elle fonctionne?
Ah, certainement, oui. Un des premiers éléments, c'est que ça va vous proposer un espèce de miroir de nos peurs. C'est-à-dire que selon les époques, on va voir que les types de crimes dont il est question dans la fiction policière vont être différents. Elles s'adaptent aux époques parce qu'en fait, eh bien, elles cristallisent des inquiétudes spécifiques à un certain nombre d'évolutions. Donc effectivement, elles sont un espèce de miroir sombre de nos inquiétudes, de nos peurs, que ce soit dans la façon dont la criminalité est décrite, mais aussi dans la façon dont les forces de l'ordre sont décrites. Comment est-ce que fonctionne le commissariat? Est-ce qu'on va mettre en avant un personnage seul ou une équipe? Qu'est-ce qu'on montre du quotidien d'un commissariat? Est-ce que c'est un quotidien où les relations professionnelles fonctionnent ou est-ce qu'au contraire, c'est un quotidien qui dysfonctionne? Dans les années 70, par exemple, vous aviez énormément, je pense, au cinéma, la figure des autorités policières comme des autorités judiciaires qui dysfonctionnaient dans le cinéma américain parce qu'il y avait c'était une période d'une énorme crise de confiance.
L'inspecteur Harry.
Et puis, vous aviez l'inspecteur Harry qui redressait cet ensemble un peu qui était en train de partir à volo et qui maintenait sa loi, qui était par ailleurs une loi assez contestable et qui est contestée dans certains des opus de la série. Mais voilà, il y avait cette idée de « on se méfiait de l'autorité ». Ça, c'est vraiment quelque chose des années 70. Dans les années 90, on va mettre en avant beaucoup les fictions de groupe, que ce soit dans le roman ou à la télévision et également sur grand écran. C'est-à-dire qu'on va vous montrer comment fonctionne un commissariat. La loi n'est plus une affaire de justicier. Ça devient une affaire de groupe parce que bien voilà, ça engage la société à une époque où le contrat social se délite un peu. Donc, on a besoin de réaffirmer que finalement, l'institution, le groupe fonctionne, même si la société elle-même est en train de se déliter.
En vous écoutant, je repensais à Brooklyn Nine-Nine, moi, qui est une des séries que j'apprécie particulièrement.
C'est extrêmement loufoque, mais très drôle. Et c'est un portrait de la société américaine telle qu'elle aimerait se voir.
So, do you recognize any of these men?
I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar.
Do you remember what he was singing?
I think it was that song, I Want It That Way.
Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way?
Really?
Les récits criminels en disent beaucoup aussi sur l'âme humaine, pour le meilleur et aussi pour le pire, si on écoute. Alors, la psychologue américaine Tema Bryan, j'imagine que vous avez entendu parler d'elle, elle a dit « Les personnes qui recherchent du confort et un instant de détente en regardant des séries criminelles auraient un problème psychologiquement hérité de traumatisme. Plus précisément, elles auraient du mal à gérer ces traumatismes. Qu'est-ce que ça vous inspire ?»
Moi, si on part dans des questions psychologiques, ça me rappelle Bruno Bettelheim, qui travaillait sur les contes de fées. Les contes de fées qui sont des lieux absolument épouvantables où il ne se passe que des horreurs et où lui expliquait au contraire qu'en fait, le conte de fées, c'était un moyen pour l'enfant qui aime qu'on lui répète ses histoires d'ogres qui mangent des petites filles ou de parents qui perdent des petits garçons dans la forêt. Mais ces histoires-là permettent au contraire de se débarrasser de nos peurs. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je pense pas nécessairement, enfin je suis assez en contradiction avec la citation que vous venez de lire, parce qu'il me semble au contraire que je pense que avoir un traumatisme ne vous conduit pas nécessairement à vouloir le revoir en permanence, se rejouer à l'écran. Par contre, le spectacle finalement de vos terreurs qui sont résolues est un spectacle qui est plutôt rassurant. Donc je crois pas beaucoup à l'association entre traumatisme et fascination pour la série policière.
À l'université, vous travaillez sur les séries télé policières, les politiques et culture populaire. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, justement, à inquiéter sur ces phénomènes, à en faire un domaine de recherche ?
Alors, c'est une longue histoire. Ça tient beaucoup de la façon dont les séries policières sont devenues, au fil des années 90 et surtout à partir des années 2000, un objet d'étude nouveau pour les universitaires qui étaient formés ou qui travaillaient. Moi, je viens au départ de la littérature et puis je me suis intéressée au cinéma. Et les séries policières, c'est quelque chose auquel je me suis intéressée comme objet de recherche plus tard, mais qui m'avait accompagnée pendant toutes mes années de formation. C'est-à-dire que j'ai toujours regardé énormément de séries policières, mais je n'osais pas travailler dessus pendant longtemps. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, les séries deviennent un véritable objet d'étude à l'université, pour des raisons sociologiques, pour des raisons culturelles, pour un intérêt pour justement tout un champ de représentation qui est extrêmement riche. Et ce qui s'est passé petit à petit, c'est qu'on s'est senti de plus en plus légitime à parler d'objets qui pendant longtemps avaient été dénigrés ou considérés comme secondaires. Et puis, ce basculement dont je parlais, ça a accompagné aussi la montée en puissance, la montée en qualité des séries télévisées. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les années 70-80, les séries étaient vraiment souvent des séries de consommation. Alors, ça n'empêche pas qu'elles étaient pour un certain nombre très intéressantes, et je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont de très grande qualité. Mais c'est à partir des années 90, avec le développement du câble, en fait, que l'univers de la création télévisuelle prend véritablement toute son ampleur et se met à rivaliser presque avec l'univers cinématographique. Donc les objets télévisuels gagnent une forme de reconnaissance critique et culturelle. Et ce double mouvement a fait que, finalement, je me suis autorisée à travailler sur ces vieilles passions personnelles.
Merci Emmanuelle Delannoy-Brun, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Cité et autrice de Passion criminelle aux éditions Erol. Vous pouvez retrouver le premier épisode de la story Crime et Engouement sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Cette émission de la story a été réalisée par le commissaire Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.